Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Donc nous, on est arrivé en 1998 exactement dans le lieu. On a mis 2 ans de réhabilitation. Et en 2001, on a ouvert les portes, que ce soit aux artistes pour travailler, que ce soit au public également pour voir les projets des artistes et participer au processus de création. Donc main d'œuvre est un exemple parmi tant d'autres de lieux réhabilités. Ce mouvement a commencé dans les années 70 avec plusieurs lieux un peu partout en Europe, surtout en Europe de l'Ouest. Et au fur et à mesure de la délocalisation progressive vers l'Asie, il y a de plus en plus de lieux, et notamment en Europe de l'Est, qui s'ouvrent, avec aussi des jeunes générations qui ont envie de réfléchir de nouvelles politiques culturelles dans leur pays. Et donc à travers cette réhabilitation de lieux, ça leur permet d'avoir un espace de démonstration, de présentation de projets artistiques contemporains. Donc ce que je vais essayer de faire là, cet après-midi en 3 quarts d'heure, c'est d'essayer de montrer ce que c'est que la créativité, parce qu'il y a plusieurs types aussi de créativité à travers ces projets-là. Même si on est des lieux de création artistique, comme vous le verrez aussi notamment avec Nicolas Frise, on fait aussi beaucoup d'autres choses à travers ces lieux. C'est une porte d'entrée aussi pour la redynamisation d'un territoire, pour permettre aussi à d'autres types de créativité de voir le jour, pas seulement artistique. Donc voilà, donc main d'œuvre, c'est un lieu de 4000 m². Je vais l'utiliser comme exemple pour, pendant tout le temps de ma présentation, mais je vais vous montrer également d'autres lieux artistiques en Europe. Comme ça, vous verrez un petit peu justement la diversité de ces lieux, qui peuvent être des lieux qui fassent 100 m² à des lieux qui fassent 40 000 m². Donc la réhabilitation, bien sûr, n'est pas la même, et les projets à l'intérieur non plus. Après, ce qui rassemble ces lieux, c'est plutôt la volonté de donner des espaces de travail à des artistes, de permettre à des créations également de voir le jour qui auraient du mal justement dans les institutions publiques, et puis aussi de trouver un autre rapport entre l'art et le territoire, les habitants. Donc voilà, c'est un petit peu ça les 3 fondements en fait qui rassemblent ces lieux réhabilités. Voilà, mais après chacun a ses propres actions, ses propres manières de fonctionner sur les territoires. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dès 1983, il y a un réseau européen qui s'est monté de ces lieux indépendants pluridisciplinaires qui s'appelle Trans-Europal, dont je parlerai tout à l'heure. Ce réseau indépendant donc, a été réfléchi au départ dans l'idée de rencontre justement à travers des savoir-faire. C'était un peu nouveau cette question de réhabilitation de lieux. Donc c'est des réhabilitations souvent réalisées par des artistes ou par des gens de la société civile, donc pas par les collectivités territoriales. Donc ces artistes et ces gens de la société civile avaient certaines compétences, mais peut-être pas non plus toutes les compétences au niveau de l'architecture, de la construction, etc. Donc il y a des compétences qui se sont développées dans ces lieux au fur et à mesure. Donc il y a pas mal de problématiques liées à ces lieux réhabilités. Donc c'est pourquoi en 1983, les Halles de Schaerbeek, qui est un lieu à Bruxelles, les grandes Halles, je vous montrerai quelques photos tout à l'heure, a décidé de proposer à plusieurs lieux en Europe de se retrouver autour d'un week-end pour justement voir un peu qu'est-ce que ça veut dire ces lieux indépendants réhabilités, quelles sont les problématiques liées à ces lieux, qu'est-ce qui fonctionne, et d'échanger justement les savoir-faire. Donc ce réseau est vraiment un réseau de professionnalisation pour les acteurs culturels qui montent ces lieux indépendants à travers l'Europe. Et c'est également un outil pour justement légitimiser ces lieux sur les territoires, en plus des espaces de création qui existent déjà, qui sont les théâtres, les maisons de la culture, etc. Montrer qu'il y a besoin aussi de ces espaces dans le paysage culturel au niveau européen. Voilà, donc je vais commencer en fait par vous parler un petit peu plus de ces besoins de ces acteurs. Donc quand ils arrivent dans ces lieux, l'idée c'est pas juste de se dire voilà, il y a un lieu comme main d'œuvre, un centre social et sportif, on va juste l'offrir à des artistes, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi de rentrer dans un bâtiment comme celui-là? Quel est l'impact par rapport au territoire sur lequel il est? Quelle est l'histoire de ce bâtiment? Est-ce que ça a un impact par rapport aux projets qui vont se faire dans le lieu? Voilà, toutes ces questions se posent pour ces acteurs qui rentrent dans ces bâtiments. Et donc, du coup, il y a plusieurs projets qui vont se monter dans ces lieux pour essayer justement de favoriser un lien entre le passé, le présent et le futur. Alors, on a main d'œuvre. Donc, voilà. Donc, main d'œuvre avec plusieurs évolutions du bâtiment. Donc, en 1959, donc, au départ, le lieu, c'était Ferrodo. En fait, l'entreprise Ferrodo qui avait ce bâtiment et ensuite Valeo. Donc, c'est assez intéressant de voir un peu l'évolution. Donc, c'est assez rare dans le paysage industriel d'avoir ce type de bâtiment en lien avec l'usine. Donc, l'usine était de l'autre côté de la rue. Donc, là où on se trouve, en fait, l'usine Valeo était à cet endroit-là. Et de l'autre côté, Valeo avait envie d'offrir un espace de loisirs, de sport également pour les ouvriers. Donc c'est un espace quand même de 4000 m2, donc c'est quand même un gros investissement aussi pour Valeo d'avoir ouvert ce bâtiment. Et donc il y avait le restaurant ouvrier au rez-de-chaussée. Au premier étage, c'était les espaces d'aérobic, il y avait des espaces de réunion aussi pour les associations, les syndicats, etc. Un gymnase. Et puis au dernier étage, au début il n'y avait rien, au début ça devait être un terrain de tennis. Et au fur et à mesure, ils ont décidé de faire finalement un deuxième étage avec un espace cafétéria et une salle de projection, de conférence que je vous montrerai par la suite. Donc quand les fondateurs du lieu sont arrivés dans ce bâtiment, une des premières idées c'était de se dire qui étaient les premiers ouvriers, les premières personnes qui sont rentrées dans ce bâtiment. Et plutôt que de se dire juste le lien historique sur le bâtiment, c'était aussi le lien humain. Ça, c'est très important aussi dans ces lieux, c'est la question de l'humain, pas seulement du bâti, mais aussi le rapport entre les humains qui étaient dans ce bâtiment et les prochaines personnes qui vont y être. Donc la première chose, ça a été en 2003 d'organiser un repas en fait avec des anciens de l'entreprise Ferrodo et Valeo. Donc il y a eu un repas avec 80 salariés. Qui ont découvert en fait la réhabilitation du lieu. Donc il y a eu beaucoup d'échanges entre les anciens salariés ouvriers qui avaient déjà, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas vus, et puis de redécouvrir ce bâtiment d'une autre manière avec une nouvelle vie, une nouvelle dynamique. Ce que nous on a fait par rapport à la réhabilitation du bâtiment, c'est qu'on n'a pas complètement tout détruit et tout cassé à l'intérieur. On a essayé de garder les volumes. Et l'idée par rapport au projet main d'œuvre, c'est de permettre une réhabilitation sommaire pour que même si l'association main d'œuvre s'en va, le bâtiment pourra avoir une nouvelle vie, une nouvelle activité et également par la suite. Donc ça, c'est un petit peu toujours dans le fondement de ces lieux. C'est pas de tout casser, de tout refaire, mais plutôt d'utiliser les espaces comme ils sont et de réfléchir justement au nouvel usage qu'on veut leur donner, mais également justement à garder ces volumes, etc. dans les espaces. Donc ils étaient très surpris, ils étaient très enthousiastes de voir la nouvelle vie de ce lieu. Et donc ils ont décidé ensemble avec l'association main d'œuvre de monter un projet pendant 4 ans autour justement de la réhabilitation de lieux industriels et de la mémoire de ces ouvriers dans la ville. Donc il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été faits ensuite par les ouvriers dans les écoles autour de main d'œuvre, et puis également des conférences, des expositions, etc. pour justement créer du lien. Que ce soit aussi entre les artistes qui arrivaient pour comprendre aussi ce lieu, ce qu'il en était, etc. Et pour pouvoir sentir l'essence de ce lieu et lui redonner une nouvelle vie. Donc le bâtiment aujourd'hui, il y a encore des phases de travaux à faire à l'intérieur, mais voilà. Ensuite, je vais vous parler des Halles de Scarbec, qui a été créé, qui a été ouvert en 1974. Je crois que j'ai les mètres carrés, 2200 mètres carrés. Donc ce bâtiment, par exemple, eux, ils ont monté un projet qui s'appelle Les Voisins, qui est un projet justement pour essayer de créer du lien entre cet espace, le quartier et les habitants de ce quartier. Donc ce qu'ils proposent, par exemple, à travers Les Voisins, c'est qu'ils proposent aux artistes d'aller à la rencontre des habitants et de faire des projets artistiques ensemble. Et de faire des projets en lien avec le quartier, avec l'habitat. Donc on a une artiste par exemple, Anna Rispoli, qui a proposé un projet qui s'appelle Voisins d'en face. Et pendant toute une année, elle est allée rencontrer tous les habitants d'une rue, un par un, elle les rencontrait, elle les interviewait, que ce soit sur qui ils sont, ce qu'ils font dans cette rue, depuis combien de temps ils sont là, s'ils connaissent les Halles de Scarbeck, l'histoire, etc. Mais aussi, qu'est-ce qu'ils font là aujourd'hui, s'ils connaissent leurs voisins et de créer du lien social. Donc ce projet est vraiment vecteur en fait, de lien social pour le quartier et de lien aussi entre la structure culturelle et les habitants. Et donc là, le projet, c'était de créer en fait une guirlande de vêtements qui aille d'un appartement à l'autre. Les Halles de Scarbeck. Donc un autre type de projet aussi qui peuvent se créer en termes de régénération d'un quartier, d'un territoire à travers justement des lieux réhabilités. Et on a un autre projet là qui est assez intéressant. Donc là, ça se passe en Slovaquie, dans une petite ville qui s'appelle Žilina, un lieu qui s'appelle Stanica, truc sphérique, donc qui a été créé en 1998-2003. En fait, c'est une gare, une gare de train qui fonctionne toujours aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a certains bâtiments qui sont réhabilités, où il y a d'autres usages qui sont apportés au bâtiment, mais également qui gardent certaines fonctions. Donc par exemple, Stanica, voilà, il y a un train, je crois que c'est 2 ou 3 fois par jour qui passe dans cette gare. Donc, sur le site d'ailleurs du lieu culturel, il y a le timetable, les horaires des trains. Donc c'est assez chouette de pouvoir justement créer du lien aussi entre l'ancienne activité qui est toujours là et également le bâtiment avec les activités culturelles. Donc par rapport à ce projet, ce bâtiment, en fait, cette petite gare, elle est complètement excentrée en fait de Žilina. Elle est dans un nouveau quartier et elle fait un peu le lien entre le centre historique, des bâtiments plutôt de bureaux, etc. Et puis des nouveaux quartiers de la banlieue qui s'ouvrent autour. Et ce qui est assez intéressant, on le voit là bien, il y a une route en fait qui passe tout au-dessus de la gare. Donc il y a une espèce d'enclavement comme ça de cet espace. Un espace aussi de no man's land parce qu'il y a énormément de routes, de voies rapides tout autour de ce bâtiment. Et notamment la voie ferroviaire, et il y a beaucoup de difficultés de circulation justement entre le cœur de la ville, Žilina, les bâtiments de bureaux, etc. Il y a beaucoup de difficultés, sauf si on a une voiture pour pouvoir traverser ces espaces. Et eux, ce qu'ils ont proposé en fait comme projet depuis presque le départ, c'est d'organiser un atelier pendant l'été entre des architectes, des graphistes, des artistes, des gens de la population autour de projets concrets à travers Stanica, à travers le lieu culturel et à travers ce quartier. Donc par exemple, un des premiers projets, ça a été de créer un espace vert, en fait, un jardin partagé pour essayer de créer du lien sur ce quartier autour de Stanica. De l'autre côté en fait, de la voie ferrée, il y a un espace qui était un espace vide de No Man's Land, qui se sont réappropriés pour faire un jardin. Donc l'idée, par exemple, de ces 15 jours de séminaire, c'était de se dire, on est 20 personnes, et en 20 jours, on doit essayer de trouver les autorisations pour pouvoir ouvrir ce jardin, trouver les gens qui voudront bien nous aider à faire le jardin, aller interviewer les gens autour pour savoir si vraiment c'est intéressant ou pas ce projet, donc faire une étude, un diagnostic et une réflexion d'aménagement de l'espace. Donc voilà, donc ça c'est un projet par exemple qu'ils ont mené. Ils ont mené un autre projet que vous voyez là sous le pont. Ils avaient besoin de s'agrandir, d'avoir un espace supplémentaire. Ils avaient du mal à avoir des autorisations pour ouvrir un autre bâtiment. Et donc là, ils ont trouvé avec des architectes la possibilité de créer un espace. C'est fait en fait avec des boîtes de bière, vous savez, en plastique. Ils n'ont pas besoin d'autorisation par rapport à ça dans la législation pour créer cet espace. Donc ils ont créé un espace comme ça avec également de la paille et du clay, du ciment pour créer cet espace-là. Ils ont utilisé du coup la route pour faire le toit du bâtiment. Donc voilà, la créativité aussi dans les espaces. Donc ça c'est aussi issu d'un séminaire comme ça où ils ont associé plein de gens autour de ça. Ils ont réussi à créer cet espace qui est maintenant un espace de travail pour les artistes. Donc ça c'était le projet Stanica, donc pour vous montrer un petit peu l'étendue aussi de ces bâtiments en lien avec le quartier, qui sont aussi des espaces de régénération pour l'espace urbain. Ensuite, ce qui est intéressant aussi en termes de créativité dans ces lieux, c'est bien sûr il y a la créativité artistique, il y a les artistes qui vont venir travailler souvent in situ dans ces espaces, ou en tout cas qui vont réfléchir à des objets en lien avec les espaces. Mais il y a aussi ce qui est très intéressant, c'est la créativité autre aussi qui se met en place. Par exemple, tout ce qui est la créativité autour des modes de fonctionnement. Comment on peut réfléchir aussi la construction du bien vivre ensemble, de nos modes de fonctionnement de la vie quotidienne d'une autre manière. Donc ça, c'est aussi très important dans nos lieux. C'est un autre type de créativité. Donc par exemple, à main d'œuvre, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est la question du développement durable. Comment justement ce type de lieux qui ont cette histoire, etc., peuvent être pérennes, que ce soit dans le bâti, mais aussi pérennes dans leurs activités, mais aussi du coup ce qui se passe dans le lieu, ça veut dire main d'œuvre qui est un lieu de création artistique, comment ce lieu peut être pérenne et être en lien avec les enjeux sociétaux de la vie au jour d'aujourd'hui et pour les générations futures. Donc l'idée justement de plus en plus de ces lieux, c'est de réfléchir à des stratégies de développement durable, de montrer que c'est possible aussi de changer nos modes de fonctionnement. Ce qu'on veut à travers ces lieux, c'est montrer des vitrines aussi d'autres types de créativité. Par exemple, que dans les entreprises aujourd'hui, c'est vraiment des pyramides sur les manières de fonctionner, etc. Qu'il y a d'autres types de fonctionnement qui sont possibles pour donner plus de prise d'initiative, d'autonomie aux gens qui travaillent dans une entreprise. Donc, par exemple, le développement durable, nous intéressait parce que dans notre lieu, ce qui est intéressant, c'est pas juste se dire nous, on est entre nous, les artistes et les opérateurs culturels, mais comment on va impliquer les habitants, les artistes en résidence, les gens d'une équipe, d'un lieu, à faire le fonctionnement de ce projet et aussi à réfléchir les activités du lieu. Avec, bien sûr, tout ce qui est les impacts écologiques, sociaux, politiques, culturels, économiques que ce lieu va engendrer sur le territoire. Donc, c'est des enjeux pas seulement français, mais internationaux, de toute façon même mondiaux, de toute façon, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre planète. Donc, on a monté notamment une formation, par exemple, avec le réseau Trans-Europal, justement, The Art of Sustainability, comment ces lieux culturels peuvent s'emparer de ces questions sociétales et les appliquer à eux-mêmes. Donc, voilà, donc on a réfléchi à des stratégies de développement durable dans notre lieu. Voilà, donc il y avait 20 participants de 20 lieux différents à travers l'Europe. Il y avait 12 pays représentés. Voilà, il y a la Friche Belle de Mai. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un lieu donc en France, à Marseille. Je crois que c'est 45 000 mètres carrés. Donc la Friche Belle de Mai, donc ce sont les anciennes manufactures de tabac de la CEITA. Donc qui a été créée en 1992. Donc sur un bâtiment, je pense que toi Nicolas t'as travaillé, je crois que t'as fait une résidence également là-bas. Voilà, donc un énorme bâtiment avec plusieurs bâtiments, avec aussi des espaces de rue même à l'intérieur on pourrait dire. Et donc c'est plusieurs collectifs en fait qui se sont rassemblés là-bas sous forme d'associations. Donc il y a une association Système Friche Théâtre qui gère ce bâtiment. Et au jour d'aujourd'hui, ils se sont aperçus qu'il y a peut-être d'autres types d'enjeux aussi à travers ce projet de la Friche Belle de Mai, d'autres manières aussi de fonctionnement. Et donc là, ils s'intéressent justement à la question des SIC, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont les sociétés de coopération et d'intérêt collectif. Donc l'idée justement, c'est comment passer d'une association à une SIC pour essayer de permettre à un collectif qui existe depuis 1992 qui voilà, finalement vit les uns à côté des autres en termes d'activité, etc. On peut créer plus de liens, plus d'investissements sur les artistes, les collectifs qui travaillent dans ce lieu, qui ont du coup des espaces séparés, mais qui mutualisent également des espaces ensemble à la Friche Belle de Mai. Et comment justement à travers ce nouveau type de statut, donc qui sont dans les fondements de l'économie sociale et solidaire, on peut réfléchir à d'autres manières de fonctionner ensemble. Donc pour eux, c'était important également du coup d'impliquer les partenaires de la Friche Belle de Mai dans ce projet, donc les partenaires financiers. Donc en fait, la société, la SIC, c'est chacun met au pot commun en fait. Donc chacun investit de l'argent dans ce projet et il y a une gestion collective ensuite qui se fait pour les bâtis et puis pour ce qui va se passer, les activités du lieu. Donc voilà, donc ça recrée un lien fort entre les différents collectifs. Mais ce qu'ils disent aussi sur le projet, c'est de se dire comment, à travers cette société de coopération, on peut créer une autre manière de développement aussi, d'aménagement urbain. Donc, à travers cette société de coopération, ils ont maintenant la possibilité d'être maîtres d'œuvre sur ces bâtiments. Ça, c'est une vraie question à travers tous ces lieux, c'est qui réhabilite ? Parce que souvent, ce sont des propriétaires privés, ça peut être des entreprises, ça peut être des collectivités territoriales qui ont racheté les bâtiments. Et maintenant, c'est comment on va pouvoir nous réhabiliter ce lieu tout en, voilà, en travaillant avec les collectivités, les propriétaires pour avoir les autorisations. Donc, c'est souvent pas évident. Donc, souvent, on arrive à changer l'intérieur des lieux, mais tout ce qui est façade, toit, etc., on a souvent du mal à pouvoir faire évoluer ces espaces. Donc, justement, à travers cette société de coopération, la ville de Marseille reste propriétaire du bâtiment, mais la friche Belle de Mai peut être maître d'œuvre et donc réhabiliter les espaces et voilà, et donc les faire fonctionner autrement. Donc voilà, donc ça c'est un autre type aussi de fonctionnement. Pour eux, c'est très important d'être toujours flexible, d'être toujours en réactivité avec, avec l'actualité. Et donc ça, ces modes de fonctionnement, pour eux, c'est très important. Et d'ailleurs, dans toutes les friches artistiques, vous pouvez voir, il y a des modes de fonctionnement comme ça, coopératifs. Voilà, donc là, la friche Belle de Mai, d'autres types d'espaces. Donc un autre lieu aussi qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle la Ufa Fabrik, donc qui a été créé en 1979. Donc le mur de Berlin était toujours présent, donc ça c'est intéressant aussi de réfléchir à ce contexte-là à Berlin. Ils ont réhabilité en fait les anciens locaux cinématographiques, donc de la propagande voilà, fasciste, et les ont réhabilités en lieu culturel. Donc ça c'est un autre mode de fonctionnement dans la manière dont ils ont investi le lieu, parce que c'est une vraie communauté en fait de personnes, c'est une centaine de personnes qui sont venues en fait dans cet espace. Et plus qu'un lieu de création, c'est un lieu de vie. Ils habitent toujours, d'ailleurs, depuis 1979, dans ces espaces. Donc, pas les 100 personnes, mais certaines personnes habitent depuis le départ dans ce lieu. Ils ont réfléchi, en fait, à créer un lieu de vie. Donc là, pareil, je ne sais plus combien ça fait de mètres carrés, mais c'est assez énorme aussi. Ça doit faire presque 40 000 mètres carrés également. Donc, il y a différents types d'espaces. Et eux, ce qu'ils ont essayé de faire, donc, c'est de créer un autre mode de vie, montrer qu'il y a d'autres possibles aussi dans le vivre ensemble. Donc, ils ont créé, par exemple, une école avec des modes de pédagogie alternatifs. Ils ont créé une boulangerie. Ils ont créé un café-restaurant avec des produits bio, etc. Donc, dès le départ, hein, donc, il faut se rappeler aussi le contexte. Ce n'est pas au jour d'aujourd'hui, en 2011. Ils ont créé une ferme également, qui est des animaux à Berlin, etc. Et puis toute une dynamique de projets artistiques et culturels. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des enjeux écologiques qui se sont posés à eux très rapidement. Et donc, il y a eu des panneaux solaires qui ont été mis en place, des green roofs, des toits verts également. Donc, ils ont fait énormément d'expérimentations aussi dans ce lieu. Il y a même des éoliennes également dans ce bâtiment. Donc maintenant, c'est un lieu un peu phare pour des lieux voilà, qui veulent se réhabiliter en lien avec des enjeux écologiques, d'aller voir ce qui se passe par là-bas. Ce qui était intéressant aussi, c'est que vraiment, ces 100 personnes qui se sont retrouvées autour de la UFA, c'était avec des compétences complètement différentes. Donc il y avait aussi bien des ingénieurs que des artistes, que des gens qui venaient d'entreprises, des informaticiens. Il y avait vraiment plein de dynamiques différentes qui se sont retrouvées à travers ce projet de la UFA. Voilà, donc ça aussi c'est un autre type de mode de fonctionnement, et donc ils ont créé du coup une autre dynamique aussi dans la ville, dans ce quartier, à travers ce projet. Interzona, c'est un lieu en Italie. Je pense que ça c'est intéressant aussi de se rendre compte que voilà, les lieux, voilà, il y a des politiques culturelles dans pas mal de pays, mais pas partout, et notamment en Italie, il n'y a pas du tout de politique culturelle pour ces lieux pluridisciplinaires. Et donc, la plupart des lieux, par exemple, qui sont dans le réseau Transeuropal, sont gérés par des bénévoles. Donc ça, c'est aussi intéressant aussi en termes de réflexion. C'est tous des gens qui ont donc un travail à côté, qui s'investissent également dans des projets comme celui-là. Donc ça, c'est des entrepôts industriels. C'est un projet qui existe depuis 1992. Ils ont changé d'espace en 2006. Et aujourd'hui, donc, comme ils sont une petite équipe, ils sont 20 personnes, ils ouvrent de mai à septembre le bâtiment pour des concerts, des expositions, des ateliers, etc. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans leur projet, c'est qu'ils ont demandé vraiment à des gens d'être membres aussi du lieu, de s'investir. Parce que comme c'est vraiment pas évident, il n'y a pas du tout de subvention publique là-bas, bah, comment justement faire fonctionner et pérenniser ce lieu ? Bah, leur manière de le faire, c'était d'investir les publics. Donc ils ont 6 000 membres quand même. pour ce lieu qui fait 1000 mètres carrés, pour justement voilà, investir et faire vraiment participer le public au projet du lieu. Donc ces gens-là peuvent aussi proposer des projets artistiques, s'investir, faire des chantiers, etc. dans le bâtiment. Voilà, donc des photos intérieures de ce lieu. Tiens, les photos de la Oufa Fabrique. Ah, bon, tout est mélangé. Voilà, la Oufa Fabrique avec les panneaux solaires, par exemple, qu'ils ont montés. Ah non, c'était 18 500 m2, le bâtiment. Voilà, et puis une troisième partie, je pense, qui va être plus développée ensuite par Nicolas, c'est donc comment ces lieux sont utilisés aussi par les artistes. Donc comment les artistes se réapproprient ces lieux. Donc je vais commencer par main d'œuvre et vous montrer un petit peu les espaces du lieu à l'intérieur. Donc ce qui est intéressant, c'est quand nous, en fait, on accueille des artistes en résidence, ils restent de 1 an jusqu'à 3 ans dans le lieu. Donc ils ont vraiment la possibilité d'investir le bâtiment. De réfléchir aux projets qu'ils veulent mettre en place, que ce soit des projets de création et des projets aussi de territoire, d'atelier, etc. Donc bien sûr, on a plusieurs espaces qui sont différents. Donc là, vous voyez un studio de danse qu'on a créé avec un plancher, on a créé des murs autour. Là, l'espace que vous voyez, c'est l'espace de restaurant. On a un restaurant ouvert du lundi au vendredi, qui était également l'espace de restauration ouvrier. Mais nous, il était un peu plus grand parce qu'il faisait tout le rez-de-chaussée et nous on l'a cassé en plusieurs espaces. On a gardé une partie, ensuite on a construit une salle de concert et à côté on a construit une salle d'exposition qui fait donc du coup tout le restaurant qu'il y avait avant pour les ouvriers. Donc voilà, là on voit le restaurant justement par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est que les artistes qui viennent dans le lieu du coup vont réfléchir des projets en lien avec l'espace. Donc par exemple, là au jour d'aujourd'hui, on a un projet qui s'appelle Food Art. Il y avait justement un Food Art ce midi, où des artistes vont réfléchir à créer du lien avec les gens qui viennent manger le midi. Donc du coup, on propose en fait des petites présentations de projets artistiques, etc. Et eux vont aussi réfléchir à ce qu'ils voudraient offrir à manger aux gens. Donc en lien avec la chef cuisinière, ils vont réfléchir au sandwich ou au repas qui va être présenté. Voilà, donc on a eu des artistes suisses. Donc là, c'est des artistes québécois, donc je crois que c'était de la poutine, pour ceux qui connaissent le Québec. Qui était offert justement aux artistes, qui est un plat typique québécois. Voilà, donc ça c'est un espace, voilà, c'est l'espace brut quand on est arrivé, c'est le gymnase. On a un gymnase comme ça à main d'œuvre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui il est toujours comme ça, sauf que nous on crée des boîtes, vous allez voir ensuite par l'image qui suit, on va mettre des pendrillons, ce qu'on appelle des pendrillons, c'est des grands rideaux noirs en fait de théâtre, etc., partout pour couvrir, pour pas qu'on se rende compte de l'espace. Mettre de la moquette ou du tapis de danse au sol. Mais voilà, le gymnase, si demain on veut refaire du sport dans cet espace, on peut refaire du sport dans cet espace. Il y a toujours les panneaux de basket, voilà, les lignes au sol, etc. Et donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que cet espace qui fait 500 mètres carrés, ben, beaucoup d'artistes veulent réfléchir à un autre mode de représentation dans le spectacle vivant. Par exemple, par rapport au mode frontal, ils s'intéressent à se dire que le public peut être au centre d'une création et le spectacle vivant autour, qu'il peut y avoir justement, là ça fait 20 mètres de long, que le projet se fasse sur 20 mètres de long et que les gens soient, les gradins soient de l'autre côté. Donc il y a toute une réflexion comme ça qui se fait au coup par coup, à chaque fois in situ avec les artistes, suivant les projets et suivant les espaces qu'ils vont utiliser. Donc voilà, donc par exemple là on a une compagnie, la compagnie X-Time. Donc c'est le gymnase. Donc voilà, donc on a un peu du mal à se rendre compte que c'est le gymnase. À chaque fois, c'est aussi intéressant pour le public qui vient main d'œuvre, c'est que les espaces, à chaque fois, on les redécouvre parce que justement, à chaque fois, il y a un investissement par les artistes différent suivant un projet à l'autre. Donc là, c'est des choses très très simples, mais par exemple, voilà, c'est un tapis de danse au sol. C'est quelques... on voit là, on voit un petit peu de lumière du jour. En fait, c'est nous qui avons peint les vitres, donc c'est juste les vitres qui sont là, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a juste 2-3 miroirs et des ampoules comme ça qui descendent du plafond. Donc c'est des choses très très simples aussi. On fait beaucoup avec des choses très simples. Il y a aussi ce côté-là du do it yourself, faites-le vous-même aussi dans ces lieux, de comment faire avec des choses très très low budget, pas beaucoup de budget, du recyclage. Donc dans le restaurant, par exemple, tous les meubles, c'est des meubles qu'on a trouvés, qu'on a réhabilités. Donc il y a la question du recyclage du bâtiment, mais aussi le recyclage d'autres choses qu'on va trouver qui vont servir ensuite au lieu. Donc là, c'est le studio de danse, ce que vous avez vu tout à l'heure, avec de la neige. Voilà. La salle d'exposition. Donc par exemple, aussi, ce qu'on a fait dans ce bâtiment, c'est qu'on a cassé tous les faux plafonds, mais le sol, c'est toujours le sol initial. Et on a construit des murs à certains endroits. Mais on a vraiment gardé le maximum des espaces. Donc là, cet espace, aujourd'hui, il sert beaucoup en salle d'exposition. Mais de temps en temps, c'est aussi une salle de concert, de DJ, de salle de spectacle. Donc, il y a aussi cette question de modulation des espaces qui est assez important dans ces friches artistiques. Voilà, c'est une salle de 200 mètres carrés. La salle de concert. Donc, juste en dessous de l'écran, en fait, vous ne voyez pas ici, mais il y a une barre rouge en fer. Et c'est la barre rouge, en fait, qui servait pour les gens qui passaient avec leur plat, en fait, avec leur plateau repas, parce que c'était un self-service. Et donc, il y a toujours la barre qui existe aujourd'hui, qui justement empêche les gens d'aller vers la scène et vers cet écran-là, qui permet de faire une limite, une délimitation, qu'on a gardée et qui fait partie du coup de l'histoire. Et on les voit là, par exemple, à côté du poteau, on voit des carrés noirs et blancs, en fait. Ça, c'était les carreaux en fait, de la cuisine qui se trouvaient à cet endroit-là, dans le bâtiment, dans la salle de concert. Donc voilà, donc c'est toujours important pour nous de montrer voilà, le lien avec l'histoire du bâtiment. Donc dans les sous-sols, il y avait un parking et nous, on l'a réhabilité en studio de répétition musique. Voilà, donc ça, c'est un espace, par exemple, d'artistes en résidence. Donc on voit encore les canalisations, etc. Il y a beaucoup de canalisations apparentes dans notre lieu. Et une salle un peu particulière qui est la salle Star Trek, qu'on a nommée comme ça, qui ne s'appelait pas comme ça du temps de Valeo. Qui est une salle toute orange, qui était par contre comme ça quand on est arrivé dans le bâtiment. Donc on a aussi des petites perles comme ça quand on arrive dans ces lieux industriels. Voilà, c'est une salle Star Trek, c'est la salle que les ouvriers appelaient la salle des mauvaises nouvelles, que nous on a essayé de donner une autre dynamique, voilà, donc avec des projets artistiques, etc. Et par exemple, le podium qui est là, c'est le podium qu'on a récupéré du film Podium qui a été tourné à main d'œuvre, une partie, avec Claude François. Donc voilà, donc des morceaux aussi de choses qui arrivent comme ça, qu'on a récupéré de décor, voilà, qui va très très bien avec la salle, donc on est très contents. Voilà, donc là qui est utilisé pour une formation sur les technologies d'interaction temps réel. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, c'est trop compliqué. Voilà, il y a la salle justement autour des tout ce qui est ressources, autour des logiciels libres, je ne sais pas, c'est des choses peut-être que vous connaissez moins, mais qui sont, beaucoup d'architectes aussi s'intéressent à ces questions-là. Les formations qu'on organise sont vraiment pour tous, des techniciens, des artistes, des architectes, des designers, qui s'intéressent à tous ces capteurs, etc. Donc les capteurs, c'est par exemple les capteurs quand il y a une porte qui s'ouvre, il y a des capteurs qui interagissent avec la présence. Donc on appelle ça de l'interaction temps réel. Voilà les technologies d'interaction temps réel qui sont très utilisées maintenant par les artistes et qui sont utilisées aussi dans les bâtiments pas mal aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est les ateliers des plasticiens. C'était l'espace, en fait, de rénovation des voitures de Valeo. Voilà, on a un autre lieu qui est à Bordeaux. C'est le TNT, qui fait 5000 m². Et ce qui est intéressant quand on discute avec les gens du TNT, c'est la manière dont ils travaillent avec les artistes, qui font aussi des créations in situ. Et comme on peut voir l'espace juste à côté avec les colonnes, les artistes font souvent des projets, en fait, en lien avec l'espace. Souvent en lien aussi avec le quartier, les habitants, etc., mais aussi avec l'espace. Et ce qu'ils se rendent compte, en fait, c'est qu'à la fin de chaque résidence, ils sont obligés de donner un temps aussi aux artistes pour que la pièce, en fait, qui a été créée dans ce lieu puisse tourner, donc dans des théâtres plus classiques. Du coup, ils leur donnent du temps pour pouvoir réaménager la pièce également pour qu'elle puisse tourner dans d'autres théâtres classiques. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que souvent, les créations qui sont faites dans nos lieux tourne dans d'autres lieux indépendants, d'autres lieux atypiques. Mais quand on veut vraiment qu'elle puisse tourner dans des scènes nationales, etc., ben, il y a souvent des aménagements à faire. Donc voilà, ça c'est une problématique qu'ils ont souvent eux dans leur lieu. C'est que les artistes travaillent avec ces histoires de colonnes, etc. Et donc du coup, ils sont obligés de réinventer aussi toute une scénographie à la fin de leur création pour pouvoir faire tourner le spectacle vivant. Voilà, ça c'est un autre lieu aussi en Norvège cette fois-ci. C'est magnifique ce lieu, si vous avez l'occasion d'aller à Stavanger, il faut y aller. En fait, du lieu, en fait, il y a une petite terrasse et c'est ouvert sur le fjord, en fait. Donc on a une vue sur le fjord, c'est dommage, on ne le voit pas là, mais qui est magnifique. Voilà, donc eux aussi, il y a eu beaucoup de réflexions aussi à travers leur projet. et notamment des artistes qui vont travailler. Ils ont des espèces de hangars, en fait, les uns à côté des autres, comme ça. Et donc, quand ils veulent faire une exposition collective, bah, c'est difficile parce qu'il y a des murs entre chaque projet. Donc, ils essayent à chaque fois, à travers les artistes, de permettre de créer du lien entre les différentes œuvres d'art, etc. Donc, à chaque fois qu'ils montent une exposition, comme c'est des expositions pas dans une salle comme ça, rectangulaire, mais dans plusieurs entrepôts, bah, ils doivent à chaque fois réfléchir justement au contenu du projet. Et puis là, c'est un nouveau lieu qui vient de s'ouvrir. On était justement à la dernière rencontre en ce repas il y a 15 jours, à Tartu en Estonie, Carnation Art Center, qui est en fait une ancienne imprimerie. Et là, on a vu justement il y a 2 semaines des artistes qui ont fait une composition musicale pour machines, donc pour les machines d'imprimerie, qui sont toujours dans ce bâtiment. Ils font énormément, ils utilisent beaucoup les machines d'imprimerie, ils ne les ont donc pas enlevées. Ils font beaucoup d'éditions, ils font beaucoup d'ateliers également autour de l'imprimerie. Ils invitent des artistes qui travaillent avec le papier, etc. Donc, ils essayent vraiment de créer du lien avec l'histoire du lieu. Donc, on a vu une très belle, très beau spectacle musical avec des machines d'imprimerie. C'était assez extraordinaire il y a 2 semaines. Voilà, comme type de projet. Voilà, donc ça me permet de faire la transition avec Trans-Europal, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc c'est un réseau assez intéressant parce que voilà, il y a 2 rencontres par an qui permet à tous ces lieux vous avez vu donc des petits lieux avec une gare qui fait 400 mètres carrés à des lieux qui font 40 000 mètres carrés, donc qui sont avec des enjeux territoriaux qui ne sont pas les mêmes, mais qui ont justement des fondements, des valeurs qu'ils partagent. Et puis aussi des problématiques qui sont les mêmes. Ça veut dire les questions de gouvernance, les questions de territoire, les questions de réhabilitation, les questions de travail in situ, comment faire tourner les artistes dans ces lieux, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et beaucoup de professionnalisation parce que souvent les gens qui sont dans ces lieux aussi, ce sont des gens qui ont appris sur le tas, qui n'ont pas obligatoirement fait... de formation, de master en management culturel, etc., et qui apprennent sur le tas. Moi, j'ai fait, par exemple, des études de commerce international. Maintenant, je dois gérer un bâtiment avec des architectes, avec... je ne connaissais absolument rien en électricité, en plomberie, auparavant. Mais voilà, ce sont des compétences que j'ai dû apprendre par moi-même pour pouvoir comprendre. Quand j'ai un technicien devant moi qui me parle d'armoire électrique, de puissance, etc., que je comprenne, que je puisse prendre des décisions en lien avec les régisseurs. Voilà, donc ça c'est un réseau qui est très important au jour d'aujourd'hui. Et puis aussi vraiment ce que je disais en entrée pour la légitimisation de ces lieux. Ça c'est très important pour nous parce qu'encore aujourd'hui, les politiques culturelles ne sont pas vraiment en lien avec ces lieux. Il y a eu en 2002 justement à la Friche Belle de Mai une grande rencontre en lien avec une étude réalisée avec le ministère de la Culture qui s'appelait les nouveaux territoires de l'art. Il y a une mission, par exemple, au ministère de la Culture, en lien avec d'autres ministères, qui a été créée du coup par la suite de cette rencontre, pour justement avoir des interlocuteurs sur ces lieux indépendants. Cette mission s'est arrêtée l'année dernière, donc il n'y a plus d'espace, justement, de réflexion, de travail avec le ministère de la Culture sur ces espaces. Aujourd'hui, main-d'œuvre, par exemple, on n'a pas d'interlocuteur à la DRAC Île-de-France, aujourd'hui, parce qu'ils ne savent pas où nous mettre. On est du théâtre, on fait de la musique, on fait des arts plastiques, on a un bâtiment, on peut être en lien avec le patrimoine. Où est-ce qu'on nous met? Donc ça, c'est des questions encore très politiques aujourd'hui.
Vous avez de vrais liens avec la région Île-de-France.
Par contre, la région Île-de-France, oui. Enfin, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même, on est quand même aidé par le ministère. Mais il n'y a pas de ligne aujourd'hui par le ministère de la Culture pour ces lieux indépendants. Et ce n'est pas que le cas en France, c'est le cas également dans plein d'autres pays où il n'y a même des fois pas de ministère de la Culture. Donc ça, c'est autre chose. Donc voilà, donc c'est à travers aussi ce réseau européen qu'on peut remonter nos problématiques à la communauté européenne, réfléchir aussi les politiques culturelles européennes de demain et puis être plus forts ensemble quand il y a un propriétaire ou une collectivité territoriale qui veut récupérer un bâtiment et que ça fait un lieu qui était implanté depuis 10 ans et qui fait un vrai travail de territoire, ben, qui emploie 20 salariés, etc., donc qui crée aussi une dynamique d'emploi dans un lieu, on est 50 lieux à écrire des lettres au maire de la ville de Copenhague, etc., pour justement apporter notre soutien à ce lieu. Donc voilà, ça c'est des enjeux aussi qui sont importants pour nous, des enjeux de solidarité à travers ces lieux Et voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Est-ce que je voulais dire d'autres choses? Donc, oui, peut-être juste la prochaine rencontre Transeuropal. Elle est au TNT à Bordeaux en octobre, du 27 au 30 octobre prochain. C'est sur la question des voisins, des processus de création, comment on implique les habitants dans les processus de création. Voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà.
Merci infiniment pour ce tour du monde.
Oui, les trois quarts d'heure.
Qui vous donne envie d'aller voir un peu plus loin pour tous ceux qui ne fréquentent pas forcément beaucoup ces lieux, mais je crois que ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Je vais laisser parler à ça, mais j'avais tout de suite une première question. Je ne vous ai pas assez présenté en introduction, mais j'ai lu dans votre petite biographie que vous aviez réalisé une thèse sur les résidences d'artistes dans l'État de New York. Et ma première question était de savoir si on a une exception française dans ce domaine-là, une exception francilienne, et si la France présente des difficultés particulières pour ou des avantages particuliers pour la survie de ces lieux-là, pour l'existence de ces lieux-là par rapport à d'autres pays. Le réseau est international, mais précisément, est-ce que les difficultés sont les mêmes partout?
Alors, je pense que les problématiques sont différentes d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, il n'y a pas de financement public non plus. C'est des fondations qui financent les projets, qui financent des lieux. Donc, il y a quand même pas mal de financement. Donc, ça n'a rien à voir, par exemple, avec l'Italie, où là, il n'y a pas du tout de financement ni privé ni public. Donc, c'est beaucoup des recettes propres. Ça, c'est important aussi à réfléchir aussi dans ces lieux. C'est qu'il y a vraiment des économies très particulières. Souvent des économies aussi mixtes. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, main d'œuvre, on a 45% de subventions publiques, 5% de financement privé et 50% de recettes propres. Donc il y a aussi toute une réflexion autour de l'économie de ces lieux qui est réfléchie. Voilà, une scène nationale, elle est aidée à 70-80% en financement public. Et après, c'est les recettes propres liées aux bars, pas trop s'il y a des bars, mais aux ticket sales, à la billetterie, pardon, voilà, de ces lieux. Nous aussi, ce qui est quelque chose qui est important dans ces lieux en termes d'économie, c'est qu'on essaye de faire des coûts très très bas. Donc par exemple, main d'œuvre, le billet, c'est entre 5 et 12 euros l'entrée pour aller voir un spectacle ou un concert, alors que dans une scène nationale, ça serait plutôt 30 à 40 euros. Donc il y a aussi ce côté d'accessibilité qui est important. En termes de politique publique, par rapport à ces lieux, il n'y a vraiment aucun pays encore qui vraiment essaye de promouvoir ces lieux. Maintenant, ce qui est intéressant à réfléchir par rapport à la France notamment, c'est qu'il y a beaucoup de collectivités territoriales qui ont envie de réhabiliter des lieux voilà, et de créer des espaces municipaux en fait dans ces bâtiments. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, ils s'intéressent justement à notre savoir-faire. On a du coup souvent, on réalise des études sur ces bâtiments. Nous, on a participé à l'étude sur la Gaîté Lyrique. On a fait une étude sur les pompes funèbres, donc le 104. On a été plus ou moins écoutés, on va dire. Voilà, mais en tout cas, c'est intéressant aussi de voir que la société civile qui a monté ses propres projets est maintenant aussi expert dans la matière et du coup est demandé en tout cas auprès des collectivités territoriales. Et après, c'est vraiment au coup par coup. À Reims, par exemple, ils ont un projet très intéressant de monter une fabrique. Et les élus qui sont en ce moment en place comprennent vraiment les enjeux de ces projets, comprennent aussi qu'il y a justement des modes de fonctionnement différents. Donc, ils ne pourront pas faire fonctionner cette friche artistique de la même manière qu'ils font fonctionner des lieux municipaux classiques, des bibliothèques, etc. Que peut-être ça va être une gestion du coup à une association qu'il va falloir faire et pas eux en direct, et qu'il faut vraiment écouter les acteurs de la société civile et pas juste faire avec leurs propres idées, leur conception de la culture. Donc voilà, après ça dépend vraiment au coup par coup. Maintenant, il y a quand même beaucoup de collectivités territoriales en France qui s'intéressent à la réhabilitation de son patrimoine industriel et notamment à travers des lieux culturels.
Oui, juste, c'est plutôt un témoignage qu'une question. C'est qu'il y a aussi beaucoup de lieux, enfin
beaucoup,
Jean-Paul Rouneff, pardon.
C'est
donc je représente le Conseil économique et social régional, Et on a beaucoup parlé d'Europe, de grandes villes. Il se passe aussi des choses en Ile-de-France. Et notamment, nous avons fait un rapport il y a 2 ans sur l'émergence. Nous, on a appelé ça les nouveaux lieux culturels, et qui sont effectivement des lieux quasiment tous issus de l'industrie, hein, issus de friches industrielles. Et donc, effectivement, il y a un intérêt majeur de sauvegarde de lieux, de redynamisation, de donner une autre vie à des lieux existants en les respectant, et également de travailler avec les habitants et faire un travail de proximité, sachant que souvent, d'ailleurs, ils ne sont pas dans des lieux où il y avait une densité d'installations culturelles. Parce que souvent c'était des zones industrielles et il n'y avait pas forcément, donc voilà, et c'était un témoignage, et d'ailleurs on a fait un certain nombre de préconisations, donc évidemment les travaux qu'on fait sont en direction de la région, et donc effectivement il y a eu tout un travail de fait avec la région, et ça nous semble tout à fait important de sauvegarder ces lieux qui apportent des choses assez différentes. Et c'est vrai que les collectivités locales, pour un certain nombre, comprennent maintenant la nécessité de sauver tout ou partie de leur patrimoine industriel et de leur redonner une nouvelle vie.
Alors vous avez esquissé une typologie de ces lieux qui vous permettrait de positionner un peu main d'œuvre dans cet ensemble ?
Oui, non, on n'a pas fait particulièrement de typologie, mais il y avait des points communs, c'est-à-dire tous viennent pratiquement tous de friches industrielles, sur des quartiers où il y avait des publics plutôt en difficulté, où c'était des zones industrielles, pas des centres-villes, où il y avait peu d'équipements culturels. Après, c'est vrai qu'il y a des grandes différences de taille, il y a des grandes différences d'histoire, enfin, on n'est pas allé aussi loin que ça.
Justement, il y a donc le réseau Actif, le réseau de lieux indépendants franciliens, ACTES.IF, et on est une vingtaine de lieux aujourd'hui, donc des lieux indépendants pluridisciplinaires, à faire partie de ce réseau. Et quand on regarde un peu la carte, là je ne l'ai pas avec moi, mais on voit que c'est vraiment justement la banlieue, beaucoup, et enfin il y a un peu aussi dans Paris, mais dans Paris c'est aussi le nord-est, et pas du tout l'ouest parisien, mais vraiment ces lieux font partie vraiment de cette couronne voilà, du nord-est parisien, avec un lieu à Mantes-la-Jolie. Voilà, donc pour montrer un petit peu voilà, les endroits aussi où se trouvent et aussi où les collectivités suivent les projets. C'est vrai que dans le 93, on est quand même nombreux acteurs culturels, et c'est important justement pour nous, et notamment c'est ce qu'on répète régulièrement à notre département, c'est que c'est important ce maillage culturel. On ne peut pas juste se dire on va mettre un lieu là et ça va permettre de raisonner sur 4-5 villes aux alentours. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est important ce travail justement de territoire. Et on a fait une rencontre il n'y a pas longtemps à Bruxelles avec l'ASEM. J'imagine que vous connaissez. ASEM, c'est les conférences en fait pour tous les gouvernements Europe-Asie qui se retrouvent chaque année. Il y a des réunions. Et il y avait des réunions justement du secteur de la société civile en amont de ce rassemblement de l'ASEM pour faire des préconisations pour les gouvernements. Et nous, on avait le travail, j'étais dans un workshop sur Creative Sustainable Cities, comment on crée des villes créatives en lien avec des questions de développement durable. Et ce qu'on a préconisé, c'est justement les petits lieux dans les quartiers, les projets, la dissémination des projets. Parce que c'est ça qui fait la richesse en fait et qui permet de toucher les gens, pas juste d'avoir un lieu de théâtre dans une ville, mais vraiment plusieurs projets qui permettent de créer ce lien et de redynamiser les territoires. Il faut dire que quand on est arrivé à main d'œuvre, c'était très très difficile. On avait des cocktails Molotov, il y avait des voitures brûlées régulièrement autour de main d'œuvre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc les voisins se plaignent parce qu'on fait un peu de bruit, mais en même temps, ils n'ont plus de voitures brûlées devant chez eux, donc ils devraient être contents d'une certaine manière. Voilà, donc c'est pour montrer que voilà, ces lieux-là aussi font partie de ce qu'on appelle un peu la gentrification d'une certaine manière, même si on ne le veut pas, parce que nous, ce qui est important, c'est la mixité sociale et de ne pas justement devenir des espaces de quartier pour les bobos, etc. Mais ça fait quand même partie, qu'on le veuille ou non, du développement local et d'apporter une nouvelle dynamique dans certains quartiers, et du coup de nouvelles personnes qui vont y habiter, etc.
Alors, peut-être j'en profite pour rappeler, notamment aux étudiants qui sont sensibles à la question de la géographie industrielle, pour dire que cette esquisse de géographie des lieux de culture que vous venez de nous faire est très intéressante, parce que il faut se souvenir que ce constat d'une forte densité de lieux semblables au vôtre en Seine-Saint-Denis ne doit pas nous faire croire que l'industrie était seulement concentrée en Seine-Saint-Denis. Elle l'était aussi massivement à l'ouest de Paris. Simplement, l'évolution sociologique, urbanistique, etc. de l'ouest de Paris s'est faite dans une direction que l'on connaît, et il est aujourd'hui simple, en regardant les inventaires du patrimoine, de constater que tout ce que nous avons inventorié dans l'ouest de Paris a quasiment disparu aujourd'hui. Et ce que nous n'avions pas inventorié a aussi disparu. Donc c'est pour vous dire le degré de destruction qui a pu avoir lieu à l'ouest de Paris. Il est plus simple aujourd'hui de continuer l'étude à l'est. Et c'est pas votre activité, en fait, la survie de ces lieux-là et le fruit aussi de cette histoire. Alors j'ai une autre question. De nombreux artistes viennent fréquenter tous ces lieux, et dans quelle mesure ils sont sensibles au fait qu'il s'agit d'anciens lieux de production industrielle? Est-ce qu'il y en a qui viennent pour réaliser quelque chose, pour considérer l'espace, peut-être très original, sans prêter aucune valeur au monde industriel, parce que c'est le thème de notre séminaire?
Je pense qu'il y a les deux, en fait. Ça dépend des artistes qui viennent. Au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que nous, on a fait tout ce travail sur la mémoire, etc. Pendant 4 ans, donc la plupart des artistes qui étaient en résidence à ce moment-là étaient vraiment en contact des artistes qui travaillaient sur cette question de mémoire, etc. Donc, ils ont fait ce lien. C'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, ils s'intéressent au bâtiment en tant que tel, pas obligatoirement à son histoire. On n'a pas obligatoirement aujourd'hui des artistes qui vont réfléchir à des projets en lien avec l'histoire du lieu, mais plus justement en lien avec ces espaces assez atypiques. Et voilà. Par contre, on est énormément sollicité pour justement rappeler ce qui s'est passé, l'histoire du lieu. Voilà, les visites qu'on fait sont toujours en lien avec ça. On réfléchit justement à faire des capsules sonores dans tout le bâtiment pour montrer ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui. Pour justement, avec une artiste sonore, pour qu'on garde justement toujours ce tracé. Le nom aussi de main d'œuvre est aussi, on l'a voulu ce nom-là, c'est en fait une artiste, la première exposition de main d'œuvre, une artiste qui avait créé une œuvre qui s'appelait, sur ses mains, il y avait écrit main et œuvre en fait. Et on trouvait que ça correspondait tout à fait finalement au projet du lieu. Au début, on l'appelait le lieu, on ne savait pas trop comment on l'appelait. Et on a gardé notamment aussi Valeo sur le bâtiment, donc qui est toujours visible, qu'on va repeindre là avec les couleurs de Valeo, là justement parce qu'on fait un petit peu de signalétique et de peinture pour essayer de garder, de toujours que les gens le savent. Voilà, on le répète tout le temps. Maintenant, après, je ne peux pas dire que les gens vont vraiment l'utiliser dans leur création. Ils le savent. Après, on a des projets qui peuvent être en lien avec cette dynamique. On avait des artistes, par exemple, qui ont fait un projet autour de la question de l'ouvrier, donc le monde du travail, avec lesquels, du coup, on a travaillé avec les entreprises, notamment l'entreprise Peugeot, qui est sur le territoire de Saint-Ouen. Donc, on a des artistes qui ont envie, qui s'intéressent à ça, mais on a aussi des artistes qui s'intéressent à tout type de projets en lien avec l'actualité, en lien avec la société.
Ceux effectivement qui connaissent Saint-Ouen, il y a tout un paysage industriel, une densité extrêmement forte, des bâtiments qui sont encore en place. Ça doit jouer effectivement, venir à Saint-Ouen, c'est pas venir ici, par exemple.
C'est
et
sûr.
ça influence. Florence Achelroy.
Moi j'avais une question concernant l'histoire de ces lieux et leur évolution. Pour certains sont très récents, d'autres plus anciens. Est-ce que vous avez une idée du ressenti des populations autour de ces lieux-là sur le temps entre 2011, c'est-à-dire sur 10 ans, ou peut-être 2012, un peu plus? Est-ce que ce lien a évolué entre l'ouverture et aujourd'hui? C'est une première chose. La deuxième chose, c'était sur les noms, justement, le choix des noms. Alors, main-d'œuvre, pourquoi pas? Ça ne renvoie pas à la fonction du lieu, a priori, puisque ce n'était pas un lieu de production. Donc,
Là aussi, est-ce que donc, au sein de votre réseau, il y a une réflexion et une position commune sur le choix de ces noms? Nous, on a plutôt tendance à vouloir que les noms des lieux restent ceux qui étaient historiquement les leurs, hein, et pas avoir de détournement ou de jeu de marketing autour de ces noms-là. Donc, est-ce que là aussi, votre réseau a une position par rapport à cela? Et puis, alors, dernière question, c'était lié à la première. Les communautés de communes ou autres acteurs publics confrontés à des bâtiments ou à des sites industriels ont régulièrement peur du coût de maintenance ou de réhabilitation, ce sont deux choses différentes. Je voulais savoir ce que vous nous avez cité des lieux qui sont particulièrement vastes pour certains, 48 mètres carrés. Est-ce que vous avez une idée du coût d'entretien et de comment sont pris en charge au moins ces coûts d'entretien, parce que ce n'est pas négligeable quand on investit ce type de lieu.
Alors, par rapport à la première question sur le quartier, les habitants, etc., justement, souvent, et la plupart de ces lieux, on essaye de créer dès le départ du lien avec les gens du quartier, à les investir sur des projets. Ça a toujours été important, donc quand même à Stanitsa, par exemple en Slovaquie, où ils invitent les participants à réfléchir sur le développement urbain du quartier, est-ce qu'on doit créer un pont, est-ce qu'on doit créer un jardin, etc. Il y a toujours cette conception qui est très importante pour nous, qui est justement de ne pas rester fermé sur des lieux pour les artistes et les gens qui s'intéressent à l'art, mais d'aller de l'avant, parce que ce qui réunit ces lieux, c'est que la créativité, elle n'est pas justement que chez les artistes, mais elle est chez tous, et comment justement on peut permettre à toutes ces personnes, à tous ces habitants, de recréer du lien avec leur imaginaire, avec leur créativité qu'ils ont intrinsèquement à l'intérieur d'eux. Donc pour nous, c'est primordial ce travail avec ces gens, avec les gens qui côtoient, qui sont autour du lieu, avec nos voisins tout simplement. Après, c'est sûr que nous à Saint-Ouen, donc c'est les Audoniens, les gens de Saint-Ouen, on n'a pas eu tout de suite 10 000 Audoniens dès le départ à main d'œuvre. Ça nous a pris du temps pour faire accepter, pour faire comprendre le lieu. On a embauché d'ailleurs des gens de Saint-Ouen parce qu'on avait aussi des soucis avec les jeunes du quartier, etc. Donc on a pris comme personne de gardien, pour le gardiennage, les grands frères. On les a embauchés pour que justement ils créent ce lien aussi avec le quartier. Ça, c'était très important dès le départ de main d'œuvre. Si on ne l'avait pas fait, du coup, il y aurait eu cette barrière et cette incompréhension par rapport à ce qu'on faisait. Donc pour nous, c'était important de créer du lien, de discuter avec les gens et de pouvoir que ces gens se réapproprient ces lieux. Parce que c'est des lieux qui étaient désaffectés, donc pourquoi nous, on les aurait et pas eux? Après, il y a toutes ces questions qui rentrent en jeu. Donc comment justement créer ce lien-là et faire que les gens se réapproprient ces lieux était très important. Donc ça se fait vraiment au fur et à mesure. C'est vrai que même au bout de 10 ans, nous, il y a encore un énorme travail à faire encore avec les voisins, avec les gens qui sont autour de main d'œuvre, pour que vraiment ils s'approprient le lieu. Donc souvent aussi ce qu'il y a, comme nous par exemple, on a une AMAP qui vient tous les mercredis. Donc ces lieux-là sont aussi des lieux de rencontre des associations locales pour d'autres activités de la ville. Donc nous, il y a une AMAP, mais il y a un lieu, le VUC en Autriche, c'est un lieu de réparation de vélos, de mobilettes par exemple. Donc dans chaque lieu, souvent, il y a des espaces comme ça qui sont plutôt culturels, qui sont en lien avec les besoins de la ville. Donc ça, c'est aussi une manière justement de permettre cette rencontre avec ses habitants et cette appropriation de ces lieux par ses habitants. Donc ça, c'est la première réponse. Pour la question des titres, enfin des noms des lieux, il y a toujours une envie de garder justement un maximum le lien avec le lieu. Donc sur tous les lieux, on essaye de le garder. Belle de Mai, c'est le quartier, hein, le nom du quartier. Maintenant, on est des lieux indépendants. Donc la première chose qui est importante pour nous, c'est qu'il y a différentes manières de faire. Il n'y a pas qu'une manière de faire. Même dans les lieux réhabilités, on n'a pas qu'une manière de faire le fonctionnement, une manière de réhabiliter, etc. Et c'est justement cette richesse de diversité de ces lieux, de manière de faire, etc., qui permet d'être intéressante au jour d'aujourd'hui quand on regarde tous les lieux. Donc non, il n'y a pas de politique pour garder les noms. Par contre, à chaque fois sur tous les sites, vous allez retrouver obligatoirement le nom intact du lieu d'origine, etc. Tout de suite, dès les premières pages, sur tous les sites des lieux. Après, il y en a certains qui le gardent, Ou alors, par exemple, Melveg à Amsterdam, c'était une entreprise de lait, une laiterie. Donc, il s'appelle la laiterie en hollandais, c'est Melveg. Souvent, c'est plutôt le nom de ce qui se passait avant qu'on a gardé. Donc, il y a un autre lieu, c'était un abattoir. Ils ont gardé le lieu, c'est Schlachthof en Allemagne. Ça veut dire abattoir. Ils ont utilisé ce mot-là. Donc, c'est plus comme ça pour créer du lien aussi avec l'histoire, mais plus à travers l'usage premier du lieu que vraiment le nom du lieu. Voilà, même si souvent, il y a le nom du lieu qui reste sur ces espaces. Et la troisième question, c'était les coûts. Alors, sur les coûts, la question des coûts, elle est très importante pour nous. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de comment on fait par nous-mêmes. Donc, ce qu'on revendique aussi, c'est d'avoir la maîtrise d'usage et d'œuvre de ces lieux. Parce que, justement, on a les compétences, on sait l'usage, parce qu'on sait ce que les artistes ont besoin, etc. Et on a souvent les compétences intrinsèques dans le lieu. Donc aujourd'hui, à main d'œuvre, on a un maçon qui fait qui sait faire la maçonnerie, qui fait tout le truc. On a des gens qui savent faire l'électricité. Donc on a les compétences en interne. Donc à chaque fois qu'on doit faire des travaux, la plupart des travaux, on le fait par nous-mêmes. Donc ensuite, on va demander des financements d'investissement à la région notamment, qui est un des vrais partenaires sur ce coup pour l'investissement de ces lieux. Qui va nous aider pour acheter des matériaux, etc., ou des fondations, ou des prêts. Par exemple, à main d'œuvre, à cause des nuisances sonores qu'on provoquait aux voisins, on a dû refaire toutes les vitres du rez-de-chaussée, par exemple. La mairie n'a pas voulu prendre en charge, donc c'était à nous de le faire. Là, pour le coup, on était obligé de payer réellement les gens, donc ça nous a coûté 80 000 euros. On a fait un prêt, tout simplement, et on a remboursé au fur et à mesure. Donc après, chaque fois, c'est différent, mais souvent, il y a les compétences en interne pour faire les propres réhabilitations par nous-mêmes. Et on essaye vraiment, et c'est un peu ce qu'on a un peu reproché, notamment au 104, c'est que nous, on avait la possibilité de le réhabiliter à vraiment moindre coût. On a fait des propositions à la mairie, mais il y a aussi la confrontation avec justement l'administration des collectivités territoriales où ils sont obligés de travailler avec certaines entreprises ou... ils ont pas. Nous, quand on fait des devis, quand la mairie va faire les devis, on va pas avoir les mêmes devis. On va réussir toujours à trouver moins cher, parce que bien sûr, quand on s'adresse à la mairie de Paris, tout de suite les entreprises ils chiffrent beaucoup plus que si c'était une association qui demandait la même chose. Donc il y a ce côté-là qui fait que on arrive au jour d'aujourd'hui à réhabiliter ces lieux par moindre coût. Par exemple, le Melveg à Amsterdam, ils viennent d'ouvrir une nouvelle salle. Leur lieu est complètement réhabilité, il est assez magnifique. Et eux, en fait, c'est à travers la bière. À chaque fois, comme c'est un lieu de concert, etc., ils ont décidé, sur l'argent qu'ils avaient chaque année, de prendre une petite partie tous les ans. Donc eux, ils sont ouverts en 1970 ou 72, prendre un petit peu chaque année sur les recettes de la bière pour pouvoir financer leur nouveau lieu qu'ils ont complètement créé, le nouvel équipement, etc. Donc après, chacun va travailler différemment suivant les problématiques liées à son pays et puis les savoir-faire en interne.
On va être obligé d'arrêter là le débat pour la suite.